La question du sens va nous occuper, en tout cas, je crois, va vous occuper et m'occuper toute cette matinée, toute cette journée et dans les semaines, les mois et les années à venir. Parce que mon hypothèse est la suivante, c'est que le conflit central dans notre société, il est devenu de nature culturelle. Le conflit central, nous découvrons qu'il est culturel. Quand on dit culturel, ce n'est pas culture au sens du secteur, ce n'est pas culture au sens du champ, tel que Pierre Bourdieu définissait un champ. C'est culture au sens d'une dimension du réel, c'est-à-dire la définition anthropologique de la culture. La culture est ce par quoi nous exprimons l'essentiel de ce qui nous relie, c'est-à-dire notre humanité, hein, comme dirait votre concitoyen local Jean-Michel Lucas. C'est aussi ce qui nous permet d'exprimer le sens de nos existences et qui nous permet d'envisager le futur et la fabrique de futur qu'est la démocratie. Donc, le conflit serait culturel. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé dans cette affaire de pandémie et de confinement? Eh bien, ça correspond à ce que Lévi-Strauss appelait un fait social total. Là, je crois qu'on peut très vite tomber d'accord. Je ne dois pas faire beaucoup de développement pour vous convaincre que jamais dans nos existences, nous n'avons connu des événements structurants à ce point-là. En fait, tous les aspects de la vie personnelle et de la vie en commun, la mort, la souffrance, la maladie, la peur, l'amour, tout a été concerné par la pandémie et le confinement. Rien n'a été épargné, et ce, à l'échelle, grosso modo, de la planète. Et ce, grosso modo, dans un même espace-temps de tous les humains conscients et communicants. C'est extraordinaire. Et donc ce fait social total, il a un effet surprenant, un effet magique, c'est de dévoiler le monde vécu. Alors le monde vécu, c'est un deuxième concept. Il a été inventé par Husserl, qui est un philosophe allemand du 19e siècle. Et ce concept, il est grosso modo l'équivalent au niveau sociologique de ce qu'est l'inconscient au niveau psychanalytique. C'est-à-dire le monde vécu, nous ne le connaissons pas. Vous voyez, c'est la structure même du sens de nos vies sociales. C'est ça le monde vécu. Et donc, pas plus que l'inconscient. L'inconscient, ben, on fait des lapsus, l'inconscient, on fait des rêves, et puis l'inconscient, on tente de l'approcher dans des séances d'analyse. Hein, c'est évidemment la pratique de la psychanalyse. Voilà comment on approche l'inconscient. Et le monde vécu, ben, il ne nous est pas plus donné que l'inconscient, sauf quand arrive un fait social total. Donc c'est un peu, si je prends une image, c'est un peu comme si nous étions d'habitude dans la nuit, et tout à coup, il y a un projecteur qui s'allume et nous entreapercevons le sens ou le non-sens, c'est-à-dire la structure même de nos vies. Alors, qu'est-ce que nous avons aperçu? C'est là qu'un autre philosophe allemand, Jürgen Habermas, m'a aidé. C'est qu'un Habermas, en continuant les travaux de Husserl, dit: la relation que nous avons au monde vécu, elle passe par le langage, par les langages. Hein? Il est clair, puisque beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens de la musique, hein? Vous pratiquez un langage qui exprime une relation à ce monde vécu. Et donc, en ramassant dans les Vosges les morceaux de langage, 125 pages de morceaux de langage, j'ai eu un accès par le langage à cette structure du monde vécu. Alors, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Ah ben, j'y ai trouvé, vous savez, au départ, j'étais un peu intimidé, hein, c'est normal. Il y avait des centaines de personnes qui avaient glissé des mots dans des boîtes, qui avaient fait des assemblées, qui avaient répondu à des questions, notamment le questionnement de Bruno Latour. Hein. Les quatre questions de Bruno Latour avaient été mises en chantier là-dedans. Je l'avais suggéré en tout cas et ça a bien marché, très très bien marché. Mais donc, qu'est-ce qu'on a ramassé? Ben, je vous le lis. Je crois que vous avez le canevas de ce que je raconte. Hein. Donc, mais surtout, ne le lisez pas, parce qu'alors, vous ne me voyez plus et moi, je ne vous vois plus. Mais donc, dans ce canevas, moi, je peux le lire. Eh bien, la première chose, évidemment, que nous avons vécue, c'est la suspension du temps. Et donc, ça nous a donc fait apercevoir la structure de notre monde vécu, qui est l'accélération. Et donc, quand le temps a été bizarrement, tout à coup, suspendu, nous nous sommes aperçus que d'habitude, il n'est pas suspendu, et que d'habitude, il est ce qu'un autre philosophe allemand, décidément, Hartmut Rosa, appelle l'accélération. Il dit « l'accélération, c'est l'aliénation du monde moderne ». Pourquoi est-ce l'aliénation du monde moderne, dit-il ? Parce que, à l'échelle même d'une vie, nous vivons plusieurs époques structurantes, plusieurs mondes, un peu comme si nous avions, à l'échelle d'une vie, vu passer plusieurs civilisations, vous voyez, notamment la civilisation de l'écriture, et puis qui a été succédée par la civilisation du numérique, ce qui est évidemment plus du tout la même chose. Bon. Donc, c'est une première chose que nous apercevons par le fait social total qui nous éclaire sur le monde vécu, c'est le temps, et le temps qui nous est devenu insensé. Bien. La deuxième chose que nous avons entreaperçue, c'est la question du travail. Vous vous souvenez, à partir du moment où même le président de la République, celui qui détient le verbe le plus haut hein, dans la République ou le royaume français, il a dit « il y a des métiers essentiels et ces métiers essentiels mériteraient beaucoup plus de considération ». Je crois qu'il l'a oublié depuis, mais on l'a tous entendu et on a tous applaudi de bon cœur. Tout près de chez moi, à Bruxelles, il y a un boulanger. Et ce boulanger, il a été couvert de fleurs par tous les enfants du quartier. Et récemment, j'ai été le voir, il m'a dit, vous savez, les fleurs ont disparu. Il n'y a plus personne qui me félicite. Il n'y a plus personne qui me remercie. Donc, on a entreaperçu quoi ? Eh bien, que nous sommes dans une société salariale, que la plupart d'entre nous, donc, nous livrons notre force de travail à quelqu'un qui en dispose, et que l'évolution du travail dans nos sociétés n'est pas rassurante. Beaucoup d'entre nous sommes condamnés à des travaux inessentiels, voire inutiles ou nuisibles. Et aujourd'hui, ce sont bien ces travaux-là qui ont repris leur rythme. Et il y a une chose qui est évidente dans toute l'histoire du XXe siècle, l'histoire sociale du XXe siècle, c'est que la manière dont l'utopie communiste s'est progressivement effacée depuis déjà bien longtemps, mais nous a laissé dépourvus de culture d'une démocratie économique, nous a dépourvus d'une capacité à discuter du travail. Où discute-t-on du sens et du non-sens du travail ? Et quand je parle de travaux inutiles ou de travaux nuisibles, c'est bien sûr y compris dans les services publics les plus fondamentaux, c'est-à-dire l'enseignement et l'hôpital. Est-ce que dans l'hôpital, on a le droit de discuter du non-sens dans lequel le rythme qui est imposé aux infirmières et aux aides-soignantes est un rythme qui empêche de soigner, qui empêche de prendre soin de l'humain. Donc là où le sens devrait être cultivé au plus haut, auprès de la souffrance et de la mort, la gestion managériale libérale des hôpitaux conduit à un meurtre du sens, un meurtre de l'humanité, un meurtre du soin dans sa plus grande beauté. Donc, ne pas pouvoir discuter du travail, quel qu'il soit, est absolument inacceptable et insensé. Et ça, nous en sommes aperçus quand, dans le premier grand confinement, le travail a été, comme le temps, quasiment suspendu. En disant qu'il y avait des métiers essentiels, on a évidemment introduit une vexation universelle sur tous les autres, supposés accessoires, notamment, bien sûr, tous les travaux auxquels nous, agents de la culture, nous sommes d'habitude. Troisième chose qu'éclaire ce coup de projecteur, la consommation. Ben, oui, à l'époque, tout est suspendu, ou presque. Et donc, il n'y a plus que les magasins dits essentiels, ceux de l'alimentation, grosso modo. Et donc, nous nous apercevons par ce coup de projecteur sur le fait que la consommation est souvent futile, souvent destructrice, souvent plus qu'inessentielle, absurde. Et donc, là encore, tout un pan de notre vie est sous le coup de projecteur de la question sens ou non-sens. Alors, les inégalités. Alors, c'est à ce moment-là, le coup de projecteur du fait social total de la pandémie et du confinement, il jette un regard épouvantable sur le travail des inégalités. Ben, on en sait quelque chose. Moi, je suis du bon côté des inégalités, évidemment. Donc, moi, j'étais à la campagne où je suis maintenant, dans une petite ferme, et j'ai passé 3 mois absolument merveilleux. Hein, le printemps était si beau, par ailleurs, et donc ce calme, cette distance que cela permet, en tout cas, pour un travailleur intellectuel, c'était évidemment une chance et un bonheur. Mais voilà, j'ai manifestement un petit capital culturel qui s'accompagne d'un capital social et d'un tout petit capital économique qui me met évidemment du bon côté des inégalités. Mais ceux qui ont vécu ça dans 50 mètres carrés à 5 personnes, alors là, ils ont vécu l'enfer. Hein, le nombre de couples qui n'ont pas résisté à cette épreuve, on devrait les compter plus tard. Le nombre de relations qui se sont détruites, le nombre de colères et de blessures et de violences entre les couples, entre les adultes et les enfants, entre les jeunes eux-mêmes, tout cela a évidemment multiplié de l'absurde. Et donc les inégalités ont été là, non seulement mises à vif, mais démultipliées. Ensuite, le vivant. Ben, maintenant, on est tout de même, on s'approche d'une interprétation du pourquoi et du comment de la pandémie, et on sait qu'avec la très grande probabilité, la pandémie est née de notre maltraitance du vivant, c'est-à-dire à proximité d'élevages industriels et où ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies des animaux, se multiplient sans limite, parce qu'il y a une concentration tout à fait anormale d'êtres vivants, et donc le franchissement vers l'humain est possible. C'est exactement ce qui est arrivé. On cherche encore qui, de la chauve-souris ou d'un autre, hein, pourrait être le vecteur, le postier hein, de cette contamination initiale, mais il est, je crois, du côté scientifique, unanimement reconnu que ces zoonoses qui passent à l'homme viennent de la maltraitance que nous faisons du vivant. Et donc la question de est-il censé d'avoir une économie extractive et transformatrice qui détruit la base même du vécu de l'humanité, hein, qui détruit le socle qui nous permet de vivre, c'est évidemment insensé. Alors, je passe au suivant, c'est la culture. La culture, nous en avons été depuis février-mars 2020, privés. Et pire que ça, nous avons été privés de la capacité de créer, de rencontrer et de mobiliser la culture dans nos vies. Mais par contre, le déplacement que cela a permis, c'est que les industries culturelles n'ont pas perdu leur temps. Et donc, puisque notre seule voie de salut était le numérique, que nous le voulions ou non, la pandémie et le confinement ont été un accélérateur prodigieux des industries culturelles et donc du risque d'une domination des manières de voir et des manières de croire. Là encore, le cœur même de l'entreprise capitaliste concerne donc le sens ou le non-sens de nos vies. Je continue. Le soin, on en a parlé, au cœur de l'hôpital géré comme il l'est aujourd'hui, ça devient évidemment le soin impossible. Je vous recommande, parce que je crois qu'on peut y accéder facilement, l'article que Florence Aubenas, qui est une journaliste fabuleuse, avait écrit en juillet 2019, elle avait suivi une grève de 100 jours d'un EHPAD du sud de la France, 100 jours de grève. Et elle avait fait un article en première page, et puis la suite, une grande page dans Le Monde. Le titre, les sous-titres, c'était « Avec le temps qu'on nous donne, le temps qu'on nous laisse pour soigner les vieux, on est obligé de les jeter dans le lit et puis de leur faire absorber la nourriture de manière liquide parce que nous n'avons plus le temps de leur donner à manger, bien sûr. Nous n'avons plus le temps non plus qu'ils aillent jusqu'à la salle de bain pour aller à selle, par exemple. Et donc, on les met dans des langes qui, évidemment, rapidement les rend dépendants. » Voilà. Donc, cette grève de 100 jours des aides-soignantes, c'était une grève non pas pour augmenter les salaires, ce qui aurait été tout de même une bonne idée aussi, mais simplement pour revendiquer un peu d'emploi en plus. En même temps, au milieu de la pandémie, vous savez ce que j'ai reçu sur mon téléphone portable merveilleux ? J'ai reçu une offre que peut-être vous avez vu passer aussi. Si vous avez de l'épargne, eh bien, investissez dans les EHPAD. On vous propose un rendement garanti, je ne blague pas, hein, entre 5 et 10% net. 10% entre 5 et 10% net. Vous savez comme moi aujourd'hui que les intérêts bancaires sont négatifs. Hein, donc, si vous avez de l'argent sur un compte, vous perdez. Eh bien, une bonne manière de ne pas le perdre est donc de créer ces zones d'esclavage des vieux et d'esclavage des personnes qui soignent les vieux en investissant. Parce qu'évidemment, si vous investissez et qu'on vous donne 10% de votre capital pour gérer un EHPAD, il ne faut pas imaginer la maltraitance à l'intérieur de cet EHPAD. C'est évident que si on doit tirer 10% du capital, ça ne peut marcher qu'au knout, au fouet. Bien. Alors, je peux continuer comme ça longtemps, évidemment, parler des enfants empêchés d'école et donc de sociabilité, de parler des étudiants privés de job et donc tombant dans la misère et n'ayant plus cours, des étrangers dont on ne parle même plus, des exilés dont on ne parle même plus, qui sont maintenant, l'Europe est devenue une forteresse imprenable, et on ne serait pas étonné de voir Frontex, la force d'intervention européenne aux frontières, non seulement refouler les réfugiés en Libye ou en Turquie, mais pourquoi pas couler leurs embarcations. Oui. Donc là, on est évidemment au bord du non-sens absolu, c'est-à-dire que les droits humains, qui pourraient être notre bouée, est une bouée crevée. C'est que dans la patrie des droits de l'homme, la France, la solidarité est criminalisée, hein, vous avez bien suivi le procès qui a été fait de ce paysan remarquable dans une vallée dans les Alpes à proximité de l'Italie, j'ai oublié son nom, mais vous le connaissez certainement. Vous avez peut-être suivi aussi combien le Conseil constitutionnel a, pour finir, contre le gouvernement, consacré le principe de fraternité, ce qui est une superbe conquête. Bref, je crois que je n'ai plus à vous convaincre, je peux encore continuer des exemples, mais je crois que j'en ai assez dit là-dessus.